France Culture.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Des funérailles sous forme de grandes fêtes à Rome. Des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés place Saint-Pierre pour suivre la messe funéraire, puis la procession derrière le cercueil du pape François jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Un pape proche des gens, avec un cœur ouvert à tous, a insisté le cardinal Battista Re lors de son homélie, lors d'une cérémonie plus politique que spirituelle. Et une grande messe aussi religieuse que diplomatique, avec 160 délégations étrangères présentes ce matin, et plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, dont les présidents américains et ukrainiens qui se sont rencontrés ce matin à Rome. Nous reviendrons donc largement sur ces funérailles avec notre envoyé spécial et notre invité Antoine-Marie Isoard, directeur de la rédaction du magazine Famille Chrétienne. Les autorités sanitaires retirent les seniors de la vaccination contre le chikungunya à La Réunion. Décision prise après trois événements graves, dont un décès survenu chez des réunionnais de plus de 65 ans. Et puis comment attirer les lecteurs dans les librairies indépendantes? Ces dernières multiplient les initiatives face à un secteur plus que jamais concurrencé par les grandes surfaces culturelles. Le glas, le deuil, mais aussi la ferveur à Rome pour les funérailles du pape François. 200 cardinaux devant près de 250 000 personnes venues des quatre coins du monde qui se sont rassemblées donc dès l'aube, place Saint-Pierre au Vatican, pour assister à la cérémonie qui a débuté à 10h ce matin. Une cérémonie que vous avez suivie au milieu de la foule. Boris Loumagne, bonjour.
Bonjour.
Alors dans quelle ambiance se sont tenues ces funérailles, Boris?
Écoutez, c'était une atmosphère vraiment particulière ce matin. Beaucoup de fidèles sont arrivés très tôt. Certains ont dormi même sur la place Saint-Pierre. D'autres ont pris le métro aux aurores et on a pu voir des gens qui couraient ce matin pour essayer d'être le plus proche possible de cette célébration. On a vu énormément d'agitation, des drapeaux qui flottaient de beaucoup de pays différents du monde. Et puis tout s'est calmé quand véritablement la messe a commencé. Les gens se sont tus, les gens ont respecté le silence qui entourait cette cérémonie. On a senti beaucoup de recueillement, on a vu des gens prier, certains même qui pleuraient, même si globalement l'ambiance n'était pas très lourde, c'était une ambiance de recueillement évidemment, mais essentiellement une ambiance de fraternité, de concorde, et les messages de paix célébrés dans l'homélie ont notamment été salués.
Alors cette messe a été présidée par le cardinal Giovanni Battista Re, qui a rappelé dans son homélie, Boris, l'héritage du pape François.
Oui, effectivement, et c'est un fait rare, assez rare pour être souligné, mais plusieurs passages de cette homélie du cardinal Re ont été applaudis ici au cœur de la foule. Le cardinal qui a rappelé avec insistance les engagements du pape à œuvrer en faveur des pauvres, en faveur des migrants. C'était une homélie que l'on a senti très politique, puisque le cardinal Re a aussi souligné la volonté de paix de François. Il a rappelé que François avait plaidé pour des négociations honnêtes pour arrêter les guerres et notamment la guerre en Ukraine, on l'a tous compris. Un message adressé, on l'a compris également, à Donald Trump qui était présent, le président américain, visiblement agacé par ces mots.
Boris Loumagne en direct de Rome pour France Culture, merci. Le pape François, qui n'a jamais cessé d'implorer la paix, on l'entendait, appelant à la raison et à des négociations honnêtes, a souligné le cardinal Giovanni Battista Re lors de son homélie prononcée face aux fidèles et face à 67 chefs d'État et de gouvernement présents, parmi lesquels Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour.
Les deux dirigeants qui se sont rencontrés ce matin juste avant les obsèques.
Oui, rencontre de 15 minutes dans la basilique Saint-Pierre. Avant le début des obsèques, la présidence ukrainienne a diffusé une photo où l'on voit les deux présidents en tête à tête, assis sur des fauteuils à l'écart, près de colonnes en marbre. Kiev qualifie cette réunion de constructive. La Maison-Blanche parle, elle, d'un entretien très productif. C'est la première entrevue entre les deux hommes depuis leur altercation dans le bureau ovale il y a deux mois. Une nouvelle réunion doit être d'ailleurs organisée dans la journée, selon la présidence ukrainienne, qui précise aussi que ce matin, Emmanuel Macron et Keir Starmer, le premier ministre britannique, ont pris part à ces échanges avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Une rencontre donc encourageante qui contraste avec les invectives échangées par les deux hommes par médias interposés ces derniers jours. Donald Trump avait accusé Volodymyr Zelensky d'empêcher la conclusion d'un accord de paix à cause de ses déclarations incendiaires, je cite, référence au refus du président ukrainien de céder la Crimée à la Russie. La Crimée, c'est cette péninsule sur la mer Noire stratégiquement située, envahie et annexée par les Russes il y a 11 ans en 2014. 2014, les Américains poussent pour une reconnaissance de l'appartenance de la Crimée à la Russie en échange d'un arrêt des combats. Cette nuit, Donald Trump se disait certain qu'un accord entre Kiev et Moscou était tout proche.
Frédéric Say, c'est bonjour. Antoine-Marie Izoard.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, également consultant pour Radio France. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette cérémonie ce matin?
Écoutez, vous le dites sur votre antenne très justement, il y a ce caractère très politique, évidemment, de cette rencontre, entre autres, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Avec, effectivement, Vladimir Poutine, je dirais, derrière, comme qui plane, parce que finalement, c'est un des absents importants et remarqués de cette célébration, pour des raisons que l'on imagine, puisqu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Mais ce qui est très fort, c'est que je crois que du bureau ovale à la basilique et à la place ronde, il y a quelque chose, une diplomatie pontificale qui se fait là. Ce que François, peut-être, n'a pas réussi au cours de son pontificat, avec quelques maladresses, parfois sur l'Ukraine, parce qu'il cherchait à protéger aussi les catholiques qui sont en Russie, parce qu'il y en a aussi, parce qu'il s'est opposé à la guerre sous toutes ses formes, et donc s'opposant à la guerre, finalement, il a donné l'impression, même s'il y a eu des gestes et des médiations pour libérer des enfants ukrainiens, entre autres, il a donné l'impression aux Ukrainiens qu'il les avait un peu abandonnés. C'est loin d'être le cas, mais c'est cette diplomatie qui se veut universelle, catholique, ça veut dire universelle et mondiale, et donc il y a ça à retenir. Et puis, il y a à retenir cette longue homélie dont vous avez parlé tout à l'heure, qui revient sur tout le pontificat de François, qui est peu spirituel finalement, vraiment pas spirituel. Alors la messe, le reste de la messe, par essence, c'est une lapalissade, c'est spirituel. Mais c'est ce mélange entre le pontifical, le spirituel, le diplomatique. Il faut reconnaître que c'est un pape que l'on enterre. Ça a pu choquer certains avec des histoires de drapeaux en berne, de ceci, de cela. Mais c'est un chef d'État. Donc ça n'est pas anodin, ça n'est pas juste le chef des catholiques. Mais pour moi, directeur de Famille Chrétienne, c'est déjà plutôt pas mal le chef des catholiques. Mais ça n'est pas que ça.
Alors, une messe et puis une procession de la dépouille du souverain pontife. Est-ce que finalement c'est à l'image de son pontificat et de la proximité aussi que François entretenait avec les fidèles?
Moi, cette journée et effectivement cette démarche et cette procession qui démarre avec ce pape François qui traverse sur une papa mobile, c'est-à-dire le véhicule avec lequel il est allé à la rencontre de la foule au cours de son pontificat, bon, tel ses prédécesseurs, mais avec encore plus de volontarisme d'être au milieu de la foule. Il faut se souvenir que à l'époque, lors des audiences générales, François faisait monter des jeunes, des gamins, des enfants de cœur, il les faisait monter pour faire un tour de papa mobile avec lui. On n'avait jamais vu ça. Et puis il a fait comme d'autres papes, il attrapait des enfants qu'on lui tendait, des jeunes enfants, des bébés qui les embrassaient. Moi, ma vie même de chrétien et de journaliste aussi un peu quand même a été secouée par une image tout au début du pontificat de François embrassant un homme au visage totalement défiguré. Et je me suis dit, là, il est en train de te dire que au-delà de tous les textes qui sont écrits au Vatican par les papes les uns après les autres, tous les textes qui sortent et que tu dois étudier comme vaticaniste, j'ai eu le privilège de travailler là-bas 18 ans, de suivre pas à pas trois papes, et bien au-delà de tous ces textes, ce qui est important, c'est le geste qui est là et qui te dit ce que doit être un chrétien aujourd'hui dans le monde. Et c'est vrai que ça a été toute l'attention du pontificat de François, de montrer avec l'enseignement de l'Église, qui parfois est mal compris et difficile à comprendre dans la société aujourd'hui, eh bien une pastorale, c'est-à-dire une application de cet enseignement peut-être un peu différente, tournée vers le monde. Ça a été toute l'attention qui a traversé le pontificat de François.
Et l'attention aussi qui a traversé l'homélie. On a insisté sur les gestes innombrables de François envers les réfugiés. Est-ce que cette boussole morale que le souverain pontife a tenté de donner à l'Église va lui survivre?
Ben forcément, je pense que d'ailleurs si le cardinal doyen fait une homélie aussi orientée sur toutes les avancées du pontificat de François, c'est pour dire attention, messieurs qui allons nous réunir pendant une grosse semaine pour préparer le conclave, et c'est lui d'ailleurs qui va organiser les congrégations générales, ces journées de travail avec les cardinaux à huis clos, cardinaux de moins de 80 ans et de plus de 80 ans, c'est-à-dire avant même que ne s'enferment que ceux qui ont moins de 80 ans en conclave dans la chapelle Sixtine, probablement autour du 5 ou 6 mai. Donc pendant ces journées de congrégation générale, ils vont définir quels sont les défis de l'Église et certainement que cette homélie va laisser des traces.
Alors justement, quel est le rapport de force aujourd'hui au sein des 135 cardinaux électeurs, donc c'est ceux qui sont âgés de moins de 80 ans et qui sont convoqués donc au conclave pour choisir le successeur de François?
Écoutez, le pape François en a créé, puisque c'est le terme consacré, on ne dit pas nommé, on ne dit pas... Il a créé 80% des cardinaux électeurs que l'on va retrouver en conclave. Donc forcément, ils ont un peu d'attachement à François, un peu beaucoup, mais il faut comprendre qu'ils ont été nommés évêques, en revanche, souvent par Benoît XVI et par Jean-Paul II. Ils ne sont pas uniquement bergoliens. Cette église, elle reste, je dirais pas divisée, mais elle reste avec une orientation tout à fait large sur faut-il continuer précisément à la façon de François, faut-il nuancer un tout petit peu, y a-t-il un balancier, vous avez une église africaine qui parfois n'a pas tout à fait compris les gestes de François, vous avez une église de la vieille Europe qui est assez, je dirais pas clivée, mais qui est partagée sur l'orientation, donc ça n'est pas forcément un grand bergolien qui sortira, d'autant plus que la curie est assez divisée, ça a été difficile ces dernières années, le pape avait une véritable fermeté, nécessaire certainement, mais une forte autorité, il le disait lui-même, et ça a un peu cassé quand même dans la curie. Donc peut-être qu'ils voudront quelqu'un qui apaise quand même un tout petit peu. Mais vous savez, moi j'y crois un peu, alors peut-être un peu moins nos auditeurs, mais certainement certains, le Saint-Esprit joue un tout petit peu derrière évidemment ces négociations, et ce sont quand même des hommes qui mettent un bulletin dans l'urne.
Merci beaucoup pour votre éclairage, Antoine-Marie Izouard. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du magazine Famille Chrétienne, également consultant en Radio France, et merci également à Loïs Guérin pour la préparation. Le Hamas se dit prêt à conclure un accord pour libérer tous les otages israéliens détenus dans la bande de Gaza contre une trêve de 5 ans dans l'enclave, alors qu'une délégation du mouvement islamiste palestinien doit rencontrer aujourd'hui au Caire les médiateurs égyptiens. Le Hamas précise que ses conditions pour un accord global incluant l'arrêt des hostilités, le retrait complet des troupes israéliennes, l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza. La répression contre l'opposition se poursuit en Turquie, avec l'arrestation ce matin d'une cinquantaine de proches et partisans du maire d'opposition d'Istanbul, poursuivi pour corruption, Ekrem İmamoğlu, l'un des plus farouches opposants au président Recep Tayyip Erdogan, qui a été arrêté le 19 mars dernier, puis placé en détention, faisant naître une vague de contestation inédite en Turquie. Les autorités sanitaires retirent les plus de 65 ans de la vaccination contre le chikungunya à La Réunion. Décision prise après 3 événements graves, dont un décès survenu chez des seniors depuis le lancement de la campagne de vaccination début avril. Alors que l'épidémie de chikungunya a provoqué la mort de 9 personnes sur l'île, Anne-Laure Danier, est-ce véritablement le vaccin qui est en cause ?
Oui, d'après les premières analyses, le lien de causalité avec le vaccin semble très vraisemblable. Ce sont les mots employés par le centre de crise sanitaire du gouvernement. À La Réunion, 3 personnes de plus de 80 ans qui présentaient des comorbidités ont développé des symptômes similaires à ceux d'une forme grave de chikungunya quelques jours après avoir été vaccinées, forte fièvre et douleur. L'une en est morte et au vu des examens biologiques, des symptômes et du délai de leur apparition, c'est vraisemblablement à cause du vaccin Ikshik du laboratoire Valneva. 3 autres cas d'effets indésirables sont en cours d'investigation, 2 à La Réunion et 1 en métropole. Alors compte tenu de la gravité de ces événements, le ministère de la Santé maintient uniquement la vaccination pour les personnes de 18 à 64 ans avec comorbidité. Le chikungunya transmis par le moustique tigre peut être fatal pour les plus fragiles. 9 personnes en sont déjà mortes à La Réunion. L'épidémie est stabilisée aujourd'hui, mais à un niveau qui reste très haut.
Anne-Laure Danier, on célèbre la librairie indépendante ce samedi, 27e édition de cet événement qui se déroule cette année dans un contexte tendu pour les librairies, car pour la première fois, elles sont passées derrière les grandes surfaces culturelles comme lieu d'achat des livres, d'après l'étude Les Français, les lectures, publiée début avril. Alors le secteur multiplie les services pour se démarquer, c'est le cas notamment la librairie Un Livre et Une Tasse de Thé à Paris, où s'est rendue Emma Fletter.
La devanture bleu clair et le nom, c'est ce qui a attiré Catherine et son amie à venir boire un thé dans la librairie féministe. L'occasion pour les retraités de regarder aussi les livres.
Là, tout à l'heure, on a lu quand même des titres et ça, l'œil est attiré par les livres quand même. C'est une bonne chose.
Mais quand il est question d'acheter un livre...
Alors non, moi, c'est pas bien, j'achète tout en ligne.
Je vais plus à la Fnac parce que par flemme... Je rentre à la FNAC, comme ça j'ai tout.
La peur de ne pas tout avoir, l'éloignement, comme cette cliente, ce sont les principales raisons invoquées par les Français pour ne pas aller en librairie indépendante. Alors pour attirer la clientèle, Annabelle, la co-gérante, propose tout un tas de services.
On a donc le salon de thé, on propose des ateliers d'écriture, on organise aussi des retraites d'écriture, des cycles de conférences. On fait des box, on propose des abonnements. Et tout ça, c'est des produits qui travaillent sur l'esprit de communauté aussi de la librairie.
Ces services, c'est donc un moyen de fidéliser la clientèle, de créer des espaces d'échange, mais c'est surtout devenu une nécessité économique.
Alors, on tient debout, après, on ne se noie pas dans la richesse. Les livres, en moyenne, on a 36% de remise quand on les achète, donc avec 36% de bénéfices, il faut payer toutes ces charges et c'est intenable. Alors qu'un gâteau, déjà, le prix n'est pas encadré, donc on peut le vendre au prix qu'on veut et on se maintient à la moyenne qui est au moins 50%, donc c'est quand même plus sympa. Et c'est un peu la grande tragédie des librairies, c'est qu'on est obligé de faire autre chose que de la vente de livres.
Mais grâce à l'argent issu de ces autres ventes, elles sont désormais 4 salariés à pouvoir travailler dans la librairie à plein temps.
Un reportage d'Emma Fléter pour France Culture. La météo avec un ciel qui restera perturbé cet après-midi de la Bretagne au quart sud-ouest. Les pluies seront plus durables et copieuses sur le Pays Basque et le Berne. Quelques éclaircies résistent tout de même du nord de la Seine jusqu'au Jura. Les températures maximales sont comprises entre 14 et 18 degrés de la Bretagne au sud-ouest, entre 16 et 20 degrés en général sur le reste du pays.